sixième édition d'Actoral, Festival international des arts et des écritures contemporaines, a lieu en ce moment, du 26 septembre jusqu'au 13 octobre, dans différents lieux de la ville. Au FRAC, au CIPM, à Montevideo, bien sûr, qui est l'épicentre de ce phénomène, à la friche La Belle de Mai, et puis à La Criée, dans laquelle nous sommes en ce moment pour cette première émission spéciale consacrée à ce festival. À La Criée, dans le hall de laquelle est présentée une exposition intitulée J.com Japon. Comme vous l'imaginez, cette exposition rassemble des œuvres de nombreux plasticiens japonais et on aura l'occasion tout à l'heure de s'y promener un peu. Le Japon est en effet un des temps forts de la programmation de cette édition 2007 d'Actoral. De même que les écritures scéniques qui ont, depuis l'origine de ce festival, une place éminente dans la programmation, eh bien, cette première émission va s'efforcer de croiser ces deux axes, les écritures scéniques et puis le temps fort consacré au Japon. En effet, on va aborder deux œuvres qui sont présentées dans la programmation d'Actoral. Jean de Séoul, 1919, un texte d'Orisa Hirata, mis en scène par Franck Dimek, et puis Shift, un texte de Shumatsui, mis en espace par Cédric Gourmelon. Orisa Hirata et Shumatsui, merci beaucoup d'être venus jusqu'ici, d'avoir fait un si long voyage et d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi bien sûr à Franck et Cédric qui êtes venus de moins loin. On va commencer avec Jean de Séoul, 1919. Quelques mots pour situer de quoi il s'agit. C'est une pièce de théâtre. C'est en fait le deuxième volet d'une trilogie dont le premier terme est Jean de Séoul 1909. Jean de Séoul 1909, dans laquelle on pouvait découvrir la famille Shinozaki, une famille de riches marchands de papier japonais installés en Corée à Séoul. En 1909, on est juste au moment où la Corée est annexée par le Japon, et 10 ans plus tard, en 1919, on est à la veille de l'insurrection provoqué par les étudiants qui tend à revendiquer l'indépendance de la Corée. Alors on pourrait imaginer que le propos de cette pièce est d'ordre politique, qu'il s'agit d'examiner la question du colonialisme, la question de l'impérialisme. En fait, pas tellement. J'ai l'impression, Orisa Hirata, que le colonialisme est un petit peu en toile de fond dans cette pièce, et que ce qui vous préoccupe surtout, c'est une peinture de mœurs de ces colons, de montrer avec beaucoup d'exactitude et beaucoup d'humour aussi, comment ces gens sont au fond coupés du monde, comment ils ont beaucoup de mal à penser par eux-mêmes en étant enfermés dans cette micro-société coloniale.
Quand j'ai commencé à écrire cette série de Jean de Séoul, je voulais traiter la colonialisation. Ce n'est pas comme le problème d'histoire, mais c'est une actualité. Je voulais traiter ça comme une actualité. Et je voulais décrire l'humanité qui est en train de disparaître, qui était en voie de disparition, entre guillemets, à cause de la colonialisation. Comment la colonialisation influence chez les gens, souvent chez les gens qui colonialisent un pays. Et je pense que le peuple qui colonise un pays, ils ont une certaine solitude. Et donc je l'appelais ça une solitude. Une solitude comique entre guillemets, comme un roi, parce que le roi est toujours il a une certaine solitude, et donc je voulais décrire cette solitude avec de l'humour.
Un humour qui passe beaucoup par le décalage, des personnages qui ne sont pas caricaturés, même si effectivement ils sont souvent drôles. Le décalage et l'ambiguïté, ce sont deux caractéristiques de l'œuvre d'Oriza Hirata. Enfin, c'est deux éléments qu'il utilise beaucoup dans son travail d'écriture.
Et chaque fois quand j'écris une pièce, j'essaie de montrer la grande différence entre la famille et les gens de l'extérieur. Et quand la différence est grande, c'est beaucoup plus compréhensible, même pour les étrangers. Et donc maintenant, il y a beaucoup d'étrangers qui montent mes pièces et c'est très intéressant. Et aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, et en fait, il a trouvé que la mise en scène de Franck était très compréhensible pour les Français. Et il est très content. C'est ça qui nous a fait
intéresser. Franck ?
Non, mais ma question, c'est est-ce que la pièce était compréhensible pour les Japonais ?
Comme cette pièce est écrite pour les Japonais, donc la difficulté pour le metteur en scène français était comment montrer ça pour les spectateurs français. Mais oh, il a bien réussi et donc c'était le point où je m'intéressais beaucoup avant de voir le spectacle.
On va revenir dans quelques secondes avec Franck sur la manière dont il a abordé ce texte et dont il l'a mis en scène. Mais je voudrais revenir avec Oriza Hirata sur cette pièce, Jean de Séoul. On s'attendrait à tort à y trouver quelque chose d'exotique, justement, pour nous, public français, à y trouver une forme théâtrale qui soit radicalement différente, radicalement autre. Au contraire, il y a beaucoup de choses dans cette écriture qui nous semblent proches. On dit que l'écriture de Jean de Séoul vous a été inspirée par les œuvres de Thomas Mann, notamment La Montagne Magique ou Les Buddenbrook. Alors peut-être quelques mots sur cette inspiration dans le théâtre classique.
Et depuis l'enfance, on a une éducation assez européenne, et donc pour nous, c'était normal de prendre une référence européenne.
Votre démarche théâtrale, du moins c'est ce que j'en ai lu, s'inscrit dans une conception naturaliste du théâtre. Alors, je voudrais peut-être que vous nous expliquiez ce que vous entendez par naturalisme, parce que j'imagine qu'il ne faut pas forcément prendre ce terme au premier degré. C'est un naturalisme auquel vous ajoutez ce petit décalage qu'on évoquait tout à l'heure.
Même si on écrit quelque chose qui est très très proche de la vie réelle, ça ne veut pas dire que ça représente un théâtre naturaliste. C'est dans la tête du spectateur que ça se passe, si les spectateurs sentent que c'est très réaliste ou pas. Et donc, dans la vie réelle, nous, on a tendance à faire une modèle virtuelle dans la tête, dans les cerveaux. Et donc, moi aussi, j'essaie de faire un modèle virtuel dans le théâtre.
Dans la tradition théâtrale japonaise et en lien avec ce que vous venez de dire à propos du naturalisme, il y a une période qu'on appelle Shingeki, qui je crois remonte au début du XXe siècle, au moment où le théâtre japonais aborde justement des formes théâtrales peut-être plus universelles, en s'ouvrant à des influences occidentales. Est-ce que quelque part votre travail aujourd'hui, aussi contemporain et actuel qu'il soit, n'a pas une certaine filiation, un certain lien avec ce théâtre Shingeki qui avait un petit peu disparu au cours des années 80-90?
Shingeki était une imitation de théâtre occidental, et donc le réalisme que les Shingeki ont cherché, c'était la réalité chez les Européens. C'était pas du tout la réalité chez les Japonais, donc c'était pas du tout la même chose. Et à partir des années 80-90, il y avait un autre mouvement dans un théâtre contemporain japonais, c'était réfléchir la langue japonaise et réfléchir aussi la vie japonaise.
Avec votre compagnie, je rappelle Oriza Hirata que vous êtes non seulement auteur et metteur en scène, mais aussi directeur de compagnie, directeur de théâtre. Votre compagnie s'appelle Seinen Dan et vous y développez une théorie du théâtre que vous appelez le style parlé. Alors peut-être développez-nous ce que vous appelez ce style parlé et est-ce que c'est en opposition avec un style écrit ?
Un
auteur dramatique écrit avec des mots et c'est les acteurs qui parlent, donc c'est toujours le style parlé. Donc pour moi, le style parlé, style écrit pour le théâtre, il n'y a pas grande différence. Tout simplement, un auteur dramatique essaie de faire la recherche sur les mots scientifiquement.
Style parlé qui n'est pas en opposition avec le style écrit. En tout cas, on voit apparaître la question du langage, plus précisément la question de la langue. Cette question de la langue qui préoccupe le metteur en scène Franck Dimek depuis plusieurs années déjà, au fil de ses créations et de ses mises en scène. Franck, je rappelle que précisément tu as écrit, tu as mis en scène plutôt une trilogie, Variation sur l'amour, une trilogie de la langue, qui comprenait trois pièces, L'échange de Claudel, Quartet d'Ainer Müller et puis Péléas et Mélisande de Maeterlinck. Avec Jean de Séoul, 1919, est-ce que vous avez l'impression d'être dans la continuité de cette réflexion sur la langue ?
Non, en fait, j'ai le sentiment, avec Jean de Séoul 1919, de perpétuer une question autour d'une forme plus archaïque du théâtre, en fait. Voilà, en ce sens, il y a une certaine continuité, comme ça, d'esprit et de recherche entre la mise en scène que j'ai pu faire de Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, où les personnages sont englués dans des rapports très symboliques, et où finalement le fil de la représentation en fait était tendu et il y avait une question, je me posais une question, j'étais obsédé par la question du temps déjà. Et je trouve que de ce point de vue en fait je pourrais faire des plis entre ce travail sur Maurice Maeterlinck précisément et le travail que nous avons fait aujourd'hui sur Jean de Séoul 1919. Cela dit,
quand vous dites archaïque, théâtre archaïque, est-ce qu'il ne faut pas comprendre plutôt forme épurée, essentielle ?
Non, pas tout à fait. En fait, oui, se débarrasser d'un certain nombre de scories, ne plus être dans des attitudes d'exceptionnalité ou d'événementiel, en fait. Je trouve que, archaïque pour moi, ça revendique en fait ce genre de recherche Mais bon, l'épure en fait partie, effectivement. C'est un retour au mythe aussi, c'est-à-dire des rapports symboliques qui constituent comme ça des questions collectives. Et en même temps, le mythe dans le sens que des histoires se racontent et que moi je suis pour que le théâtre raconte des histoires. Je trouve que c'est possible, notamment à travers le théâtre de Horiza Hirata, de continuer à chercher de ce côté-là. Maintenant, je pense que par rapport au travail que j'ai pu faire sur des auteurs comme Claudel notamment, Muller aussi, où la langue est célébrée, il se trouve que là, dans le travail dans l'écriture de Horiza, je n'ai pas le sentiment en fait qu'il s'agisse de langue. J'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit de paroles. Et du coup, nous ne sommes pas dans un théâtre qui célèbre.
Une langue dans laquelle vous explorez tous les champs et les hors-champs, ces mots qui font sens, et puis ces mots qui sont entre, qui sont à côté, des onomatopées, des « et », des « un », des « a », des choses qui ont finalement autant de valeur et que vous exploitez, et qui sont porteurs de sens tout autant que le reste de la parole.
Oui, parce que ce qu'on appelle onomatopée, je ne suis pas sûr que ce soit à raison. Pour moi, c'est un code, en fait. Hein. J'ai appelé ça onomatopée, mais je pense que pour les Japonais, en fait, la masse textuelle dont nous parlons, qui est très présente, en fait, dans les pièces de Horiza, si on fait le compte du texte, je pense que c'est bien un quart du texte en « et », en « a », en « m », en... mais bon, ça n'a pas du tout la même... Enfin, je veux dire, c'est une... Pour moi, ça fait partie de l'érotisme japonais, en fait. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est une contrainte. Pour nous, artistes français, acteurs français, c'est une contrainte de se coltiner, en fait. Ce qui est malgré tout, traduit comme des mots, en fait. Ça, j'insiste là-dessus. Hein. Rosemary Makino Fayol a pris soin de traduire, en fait... ces étrangetés comme des mots, et c'est intéressant parce que ça pose ça construit une contrainte pour l'acteur français qui ne peut pas se situer en fait physiquement réactivement en fait comme un acteur japonais avec cette part là du texte.
Quand vous parlez d'érotisme du japonais à propos de ces mots, c'est peut-être parce qu'ils sont moins intellectuels et plus portés par le corps.
Oui, enfin, quand je parle d'érotisme japonais, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Pour moi, l'érotisme, c'est l'être là. Voilà, c'est un rapport au monde qui passe aussi par la parole, en l'occurrence. La pièce de Horiza nous a cassé les pieds pendant longtemps. Poser des problèmes, en fait, vraiment poser des problèmes à plusieurs niveaux. En l'occurrence, sous cette parole, sous ces onomatopées, à vouloir trop mettre du sens, à vouloir trop jouer, en fait, les rapports humains dans le sous-entendu, on s'est rendu compte, en fait, que c'était pas un bon chemin. Et que ce qu'il fallait viser, c'est fondamentalement le malentendu qui existe entre ces gens. Et qui se déclinent de différentes manières, en fait. Des malentendus symboliques, des malentendus identitaires entre la communauté des Japonais, la communauté des Coréens. Et c'est une pièce qui, si cette pièce célèbre encore quelque chose, ce serait de l'ordre du dialogue de sourds, à mon sens.
Horiza Hirata, peut-être une réaction sur cette idée du malentendu.
そうですね。まあ日本人にとっては普通のコミュニケーションをこう丹念に描いているだけなんですけれども、
j'ai tout simplement écrit la communication entre les Japonais dans la vie quotidienne. Et donc, quand on monte une pièce comme ça en France, je pense que c'est très difficile, mais en même temps, c'est très intéressant. Donc ce sont des mots qu'on utilise inconsciemment, mais dans le théâtre, on prononce ces mots-là avec une certaine conscience. Donc il y a toujours des choses qui émergent à partir de là.
On l'a vu, une attention tout à fait particulière à la langue et sûrement une problématique particulière dans la traduction, une traduction qui a été effectuée par Rosemary Maquineau-Fayolle, une traduction avec un parti pris de grande précision, une rigueur presque scientifique dans cette traduction. Et pourtant, on sent bien que cette langue, elle comporte de nombreuses ellipses, des polysémies sûrement. Comment est-ce que, Franck Dimek, vous avez abordé ce sens parfois complexe dans la parole, dans l'écriture d'Hirata?
En essayant d'être simple, le travail de Oriza a une particularité, c'est que il propose en fait des superpositions dans la parole, des ruptures, ça on en a parlé tout à l'heure, hein, des ruptures dans la temporalité, mais surtout des superpositions qui sont écrites comme des incises, avec des groupes de personnages qui peuvent en fait parler en même temps, dans le même temps, et de choses totalement différentes. C'est un problème pour nous. Mais bon, il a fallu s'entraîner beaucoup, et quand on arrive à accrocher cette mécanique en fait du langage, les choses se font naturellement. Avec les acteurs, nous avons essayé d'être très proches de la pièce de Oriza, et sachant que des contraintes se sont posées à nous du point de vue du traitement de la parole, mais au-delà de ça, du point de vue du fait que c'est un théâtre qui, le théâtre de Oriza, est un théâtre qui prône, à mon sens, une nouvelle idée de la représentation théâtrale. Voilà. Je pensais en fait monter une comédie. Et même, je me suis dit, je vais monter une farce. Je vais monter une comédie très burlesque. Je suis parti avec cette idée dans le travail au mois de juin. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un piège. Et j'ai changé d'avis en cours de route. Je pense que Jean de Séoul, 1919, au-delà d'une comédie, est une antichambre de la tragédie. Et c'est plutôt sous cet angle que j'ai voulu traiter ce travail, cette pièce.
On voit bien qu'il y a un style Hirata. On a évoqué tout à l'heure le fait que très souvent des lignes de conversation se croisent et s'entrecroisent, des personnages que l'on voit de dos volontairement, et puis une certaine notion de la durée, une réflexion tout à fait particulière sur la durée. Quand les spectateurs rentrent, le spectacle est déjà commencé. Il y a des trous dans des moments de silence qui établissent des moments de durée. Cette pièce vous donne une matière particulière à traiter le temps au théâtre.
C'est-à-dire que on est en présence de personnages qui très souvent se retrouvent en position d'attente, mais toujours au bord d'un vide, comme si souvent la parole en fait entre ces gens n'était là que pour les empêcher de s'enfoncer sous la terre. Donc voilà, en fait. Mais le temps, au-delà de la parole, pour moi, c'est aussi une réflexion sur la disparition dont parlait tout à l'heure Oriza. Il faut aussi en revenir à ce que raconte la pièce. C'est aussi, en fait, des décalages générationnels entre plusieurs personnages. la vieille garde et la nouvelle garde. Ce qui est intéressant aussi dans ce travail sur Jean de Séoul, c'est que Jean de Séoul, c'est une saga. Hein, c'est une saga que Oriza est en train d'écrire, qui a commencé par un premier épisode, qui se poursuit avec 1919, qui peut-être ira jusqu'à 1929 et davantage. Je ne sais pas où il s'arrêtera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait d'une pièce à une autre certains personnages. Et dans des situations, dans des rapports au monde en fait différents, à 10 années d'écart. Souvent, les rebelles de la première version se retrouvent les repus en fait de la seconde version. Et c'est intéressant de voir comment ce temps-là, à l'intérieur d'une famille, est traité. En fait, il ne faut pas oublier que Jean de Séoul est une pièce qui est comment dire, qui s'ancre dans une réalité, dans un contexte historique. Et c'est aussi l'histoire de la disparition, de l'extinction d'une forme de certitude, j'ai le sentiment. On est en face, en présence d'une communauté de colons qui n'ont peut-être pas encore réellement pris conscience de la situation, mais qui, en l'occurrence, commencent à imaginer, commencent à sentir que le sol pourrait fort se dérober sous leurs pieds. D'une certaine manière, la question du temps et du temps historique est également traitée dans cette pièce. Et c'est une contrainte à la fois pour nous, mais c'est aussi un des enjeux.
Jean de Séoul, 1909, 1919, 1929, Franck Dimek l'évoquait à l'instant. Est-ce qu'on peut envisager une suite à cette trilogie ou bien est-ce que le chapitre est clos ?
Et quand j'ai écrit la troisième pièce l'année dernière, et il y avait 30 journalistes qui ont posé la même question. Et en fait, au début, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire la suite, mais comme il y avait une trentaine de mêmes questions, maintenant j'ai l'impression que je suis obligée d'écrire la quatrième pièce.
ただ1939年を舞台にしてしまうと、
やっぱり1939年、さすが1939、まあ、あ、その時は、お、日本は、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、
もう、もう、もう、もう、もう、もう、
Donc à l'époque, tout le monde avait une même pensée unique, et donc quand les gens pensent pareil tout le temps pour une pièce de théâtre, c'est pas très intéressant.
Je peux poser une question à Oriza, en fait, parce que Oriza a mis en scène sa propre pièce. Simplement, je voulais savoir si dans la mise en scène que tu as fait, si vous avez joué en Corée ce spectacle ou pas du tout.
Oui, oui. 韓国の演出家と韓国の劇団が上演しました。
C'est un metteur en scène coréen qui a fait un spectacle avec les acteurs coréens. Le metteur en scène coréen, il a fait la mise en scène très comique, donc du début jusqu'à la fin, les spectateurs étaient morts de rire. Mais à mon sens, c'était un petit peu trop.
De l'évoquer à l'instant, Shumatsui, qui présente un texte intitulé Shift, mis en espace par Cédric Gourmelon, connaît bien Oriza Hirata. Oriza tenait à présenter au public français et marseillais ce jeune auteur. Mais je crois que, en fait, votre rencontre, tous les deux, c'est au sein de la compagnie Seinenen.
そうですね。10年ほど前、
1996年に僕はセイネンダンに俳優として入りました。このコンパニーセイネンダン。
それで、その時から書きたかったんですけども、なかなか書くことができずに、織田さんの横にいていろいろ見ながら、見たり聞いたりしながら、
depuis le début, j'avais envie d'écrire une pièce, mais je ne savais pas comment. Et donc, j'ai assisté très souvent au RISA, et comme ça, j'ai inventé ma façon d'écrire une pièce de théâtre.
で似ているところが、まあ、多分あるなと思うのはある意味その、口語であるっていうことですね。で口語であることは似てて、あと例えば、人が入ってきたら挨拶をしたり、お茶を飲んだり。
Et je trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre mes pièces et les pièces de Risa Hirata. Et c'est que d'abord il y a un style parlé.Et puis, par exemple, dans une pièce, il y a beaucoup de saluts. Quand il y a quelqu'un qui rentre, il y a des gens qui saluent. Et puis, prendre du thé, s'asseoir sur une chaise, de la vie quotidienne, ça se ressemble beaucoup. Mais par contre, Risa Hirata, il écrit souvent, il se situe dans un endroit semi-public. Mais moi, j'essaie d'écrire un espace privé. Ça, c'est la grande différence.
En tout cas, on a évoqué tout à l'heure que le théâtre de Risa Hirata laissait une grande place au décalage et à l'ambiguïté. Décalage, en anglais, shift, c'est précisément le titre de ce texte que propose Chung-Man Tsui. Peut-être, comment est-ce que se matérialise ce décalage et peut-être évoquer un peu ce que raconte ce texte, le contenu de shift.
Non.まあ、対立じゃないですけど、そういう世界を描いてます。
Shift décrit un décalage entre le village traditionnel et puis la modernité, par exemple, un hypermarché installé dans ce village.
Pour autant, ce décalage ne prend pas forcément la forme d'une opposition dans notre mode de pensée occidental qui est souvent très binaire, c'est...modernité ou tradition, vrai ou faux, et on a l'impression que dans l'écriture de Chung-Man Tsui, et peut-être dans ce qu'elle révèle d'un process de pensée asiatique, il n'y a pas autant d'aspects binaires, justement, c'est plutôt très très nuancé.
やはりその対立というふうに、僕も考えているというよりも2本のまあ柱みたいな形であって、どちらかというとその伝統というものが、こう何かしらこう伝統というものに熱狂的になる時というのは逆にその資本主義によって
Pour moi, la tradition n'est pas opposée de la modernité et c'est comme deux piliers indépendants. En fait, la tradition, on met l'importance sur une tradition. Par exemple, quand le capitalisme commence à envahir la vie, donc c'est le capitalisme qui relève la tradition un petit peu caricaturée.Et donc, la tradition n'est pas à opposer de la modernité, mais c'est la modernité qui repousse la tradition à la surface de la vie.
Cédric Gourmelon, vous mettez en espace ce texte, Shift de Chung-Man Tsui. Jusqu'à présent, votre travail de mise en scène, vous avez beaucoup porté vers des textes de Jean Genet. Vous aviez monté Haute Surveillance, Le Condamné à mort. Participé aussi au travail de création autour des Nègres de Lévinas à l'opéra. Avec Chung-Man Tsui, c'est évidemment une écriture complètement différente, avec précisément une certaine incertitude entre le vrai et le faux. Comment est-ce que vous avez vécu cette espèce d'espace d'incertitude ?
Juste pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, j'ai travaillé beaucoup sur l'œuvre de Jean Genet, mais j'ai travaillé sur d'autres textes également très très différents. À chaque fois, je suis intéressé, moi, par la langue. Alors j'ai travaillé avec des écritures très différentes, mais à chaque fois avec un style affirmé, une forme revendiquée. Donc que ce soit l'écriture de Rilke, par exemple, j'ai fait un long travail sur l'œuvre et poétique et théâtrale de Rilke. J'ai travaillé sur des textes de Léo Ferré, alors ça n'a rien à voir. J'ai travaillé sur des textes de Pessoa. À chaque fois des stylistes, des gens qui voilà. Et Et donc, quand on m'a proposé ce jeu, hein, j'ai pris comme un jeu, c'est-à-dire que le Festival Actoral, Hubert Collat, m'a proposé de faire un travail sur un texte avec un groupe que je ne connaissais pas et avec une nouvelle écriture, inédite en France. J'ai accepté la proposition sans avoir lu le texte. Moi, j'ai découvert le texte il y a un mois et demi, alors c'est tout récent. Mais ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est un grand texte. Alors c'était assez émouvant, cette découverte, parce que on ne rencontre pas ça tous les jours. Et c'est-à-dire que plus je découvre cette langue, et plus je la découvre, plus je la trouve profonde et avec une capacité universelle. C'est la chose dont je doutais au démarrage, quand j'ai commencé à la lire. Je me dis, mais c'est un truc, c'est japonais. Je vois pas comment ici ça va pouvoir nous intéresser. Au-delà de l'aspect comédie, parce que c'est une pièce très drôle. C'est une pièce très très drôle. Et j'ai découvert au fur et à mesure que c'était une pièce passionnante et que c'était la découverte d'un grand auteur, à mon avis. J'espère que beaucoup de gens vont découvrir ce texte. Effectivement, je connaissais un petit peu l'œuvre d'Hirata en français, je ne parle pas japonais, mais donc j'ai trouvé effectivement une filiation, quelque chose, mais un côté carrément subversif et explosif, quoi, dans ce texte. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été choqué. Parce qu'on parle de tradition, dans ce village, ils sont tous consanguins. C'est-à-dire qu'ils couchent tous ensemble, les enfants, les parents. Leur obsession, c'est de faire un petit bébé blanc, donc un albinos, qui va symboliser un peu la pureté. Et on se rend compte qu'ils sont un peu cinglés, quoi, et que c'est en partie dû à ce supermarché Topika, là, qui est effectivement ce symbole du capitalisme qui vient envahir ce petit village. Mais quand on parle de tradition, on imagine quelque chose de charmant et de parce qu'authentique, mais alors que c'est des rapports extrêmement violents, rudimentaires, barbares, quoi. On parlait de modernité quand elle est véhiculée par ce capitalisme, ce supermarché et cette impression que tout est à portée de main. Moi je trouve que c'est une pièce terrible. Effectivement, ça raconte une histoire, mais c'est pas la narration qui importe réellement. C'est les personnages qui discutent autour d'une table, enfin souvent. C'est pas, il n'y a pas de notion de récit ou d'épopée comme ça.
Shumatsui, dans ce village, on y construit un barrage, on y a construit un supermarché. Les habitants souffrent de problèmes de consanguinité. On tient absolument à ce que du sang neuf arrive dans ce village pour y procréer un bébé très blanc. Même si ce n'est pas directement une critique politique, il y a quand même une dimension forcément très très critique, ne serait-ce qu'au second degré dans ce texte.
この芝居の感想でやはり日本の天皇制というものについて、
Et quand j'ai monté cette pièce, quand j'ai écrit cette pièce, il y avait des gens qui ont dit que ça parlait de l'impérialisme au Japon. Mais moi, quand j'ai écrit cette pièce, j'ai pas du tout pensé à ça.
ただ、日本人の特性なのか、ある集団が状況の中、ある状況の中で何かその中心を作る、無力な中心を作るという感覚というのは、だからそこが天皇制につながるという方もいると思うんですけれども、やっぱり何かそういったものは自分の中にも感じていて、
peut-être c'est la particularité chez les Japonais, mais on a tendance à créer un centre ou bien un noyau mais qui n'a pas d'importance. Et donc, peut-être dans ce sens-là, on peut dire que ça représente une certaine impérialisme au Japon. Et donc, dans ce petit village au Japon, donc, en mettant à la recherche d'un enfant albinos, et donc les gens, ils essaient de rassembler tout le monde pour avoir une certaine puissance.
On rappelle que cette cette pièce, enfin ce texte, Shift de Shumatsui, est mis en espace par Cédric Gourmelon et qu'il sera interprété par les élèves de l'ERAC. Je crois que les représentations ont lieu ce soir, 2 octobre à 19h et demain, 3 octobre à 21h, si ma mémoire est bonne. Peut-être quelques mots sur la manière dont les élèves de l'ERAC ont appréhendé ce texte, Cédric.
Alors, les élèves sont en troisième année et ont eu une formation pendant 2 ans où ils ont surtout abordé des textes classiques, donc les grands auteurs genre Tchekhov, Shakespeare, enfin vraiment tous les fondamentaux. C'est la première fois qu'ils abordaient une écriture contemporaine. Donc ils ont été surpris par le texte et donc on a assisté un peu à la découverte de ce que ça pouvait être, une écriture aussi vivante et aussi moderne, moi je trouve. Donc ils sont en plein dans cette phase-là, quoi, d'excitation.
Je rappelle donc que Shift de Shumatsui, mis en espace par Cédric Gourmelon, est présenté les 2 et 3 octobre, respectivement à 19h et 20h30, que Jean de Séboul, 1919, est présenté à la Criée jusqu'au 13 octobre, et que par ailleurs, l'excellente traduction de Rosemary Makino-Fayol est disponible aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Merci à tous pour cette discussion et je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de nous promener quelques instants au milieu de ces œuvres qui sont proposées dans le cadre de l'exposition J.com Japon et peut-être quelques réactions de votre part. Oizai Rata, vous êtes arrêté devant une vidéo de Kenji Yanobe.
Donc, il y a une image des bâtiments qui date depuis 1970. C'était l'expo universelle à Osaka. Et si vous voulez, c'est un peu comme la tour Eiffel à Paris. Et donc, on voit les images de l'époque. Depuis un moment, j'enseigne dans une université à Osaka et depuis mon bureau de cette université, je vois ce bâtiment de l'expo universelle. C'est pour ça que je me suis arrêtée devant cette image.
C'est un lieu qui vous est familier ?
Oui.
Pour les Japonais, l'expo universelle à Osaka en 1970 est très important parce que c'était un événement qui signifiait vraiment le développement économique du Japon. Donc c'était au sommet, c'était le pic de on peut dire développement rapide.
Shumatsui a choisi de commenter lui une autre œuvre qui l'intrigue beaucoup. C'est une œuvre de Hikaru Miyakawa.
Ce sont des sacs, les imitations de sacs de Louis Vuitton qu'un artiste japonais qui s'appelle Takeshi Murakami a créé chez Louis Vuitton. Et donc là, ici, c'est les sacs en carton qui sont représentés dans la vitrine. Mais ça représente pour moi vraiment le capitalisme japonais très caricaturé. C'est pour ça que je me suis arrêtée devant, c'est très intéressant.
Donc
Le sac de Louis Vuitton dans ce modèle-là, en fait, c'est un objet essentiel pour les certains gens au Japon. Mais c'est un objet français, c'est un sac français de luxe, mais c'est un japonais qui a créé. Donc là, il y a déjà une signification. Et puis, là, ici, c'est les sacs Louis Vuitton en carton. Et donc, un produit de luxe représenté en carton. Aussi, c'est un sens cynique aussi. Et donc, il y a, en tant qu'une œuvre d'art, le sac Louis Vuitton de luxe qui est devenu un carton, mais c'est toujours créé par un artiste japonais. Et donc, ça, c'est un cercle un peu vicieux, si vous voulez dire.
Merci à tous pour avoir participé à cette émission. Franck Dimek, Oriza Hirata, Shu Matsui et Cédric Gourmelon. Merci beaucoup à Hiromi pour la traduction. On se retrouve le 8 octobre, prochaine émission consacrée à ce festival actoral et qui traitera des écritures de la danse. D'ici là, toute la programmation du festival Actoral est sur le site internet www.actoral.org. Renseignements et réservations 04 91 37 30 27. Je vous rappelle que ce soir à 19h et demain soir à 21h, vous pourrez voir à la Friche La Belle de Mai, dans les studios de l'ERAC, Shift de Shu Matsui, mis en espace par Cédric Gourmelon, et que jusqu'au 13 octobre, au Théâtre de la Criée, vous pouvez aller voir Jean de Séoul, 1919, un texte d'Oriza Hirata, mis en scène par Franck Dimek. Ima sono kimi ga